Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Le retour de ce week-end des experts. L'automobile, on est là jusqu'à 10h avec Jean-Luc pour cette dernière. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez nous appeler, c'est le moment ou jamais. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. François Alain est toujours resté avec nous.
Ouais, vous avez des photos là.
Voilà.
Ouais, on fait des photos.
Et pendant qu'on parle, ça va être joli, tiens, le résultat. Et puis, dans quelques instants, Maître Rémi Jossomme sera là, Jean-Luc. Notre avocat préféré.
Appelez-le Maître.
Comment ça
ouais.
Et donc, nous avons tout de suite Dominique au 32-16 qui est là. Bonjour Dominique.
Bonjour Dominique au 32-16.
Bonjour Jean-Luc et je m'entends aussi.
Non, Dominique. Dominique, juste une chose déjà, parce qu'on vous entend très mal. Alors, je sais que vous vous souvenez pas de mon prénom, mais ça, c'est pas grave, ça va arriver toute ma vie, ça. C'est pas un problème, je le vis bien. Mais en revanche, vous avez l'air d'avoir un téléphone, mon Dominique, qui est pas très très bon là. Vous êtes pas, vous avez pas un kit Bluetooth ou un kit main libre, un truc comme ça ?
Ah non, non, pas du tout, non.
Ça va mieux, là. Ça va un peu mieux. Bon, ben, bienvenue et bonne année. Et moi, c'est François.
Ouais, ah oui, c'est vrai, François Sorel. Ouais.
Exactement.
Bon.
Pourtant, je vous écoute depuis 17 ans, même plus, parce que j'ai écouté même avec l'ancien présentateur. Je ne me rappelle plus son nom, d'ailleurs.
L'ancien chroniqueur auto ?
Auto, ouais.
Ah oui, c'était Gérard Cailleux, dites donc. Ouais, juste Gérard, Jean-Luc Moreau, vous rendez compte. Et là, il y a François Lain qui a levé les mains au ciel, comme ça, en disant ouh.
Gérard Cailleux. Que l'on salue au passage, d'ailleurs.
C'est ça. J'ai même eu Rémi Bricoletout, pour vous dire. Donc,
Rémi aussi.
Et voilà, c'est ça. Ouais. Et puis après, on est tombé sur Jean-Luc, parce que plus personne ne voulait venir, et on l'a gardé.
C'est ça.
Finalement. Bah,
c'est ouais, et en plus, il va m'obliger de me mettre sur
Facebook. France Book, c'est un nouveau magasin, d'articles de coiffeurs. Hein,
ouais,
France
c'est Book. Ça. Ouais, non, mais Facebook aussi.
Ouais. Facebook, c'est facile à retenir. Vous pensez à Fess, hein, ça, on arrive facilement à y penser. Puis ensuite, vous pensez à Book.
Ça s'écrit F-A-C.
C'est du joli. Hein.
Voilà.
Alors, attendez, voilà, Dominique, parce qu'on dit plein de choses, mais vous êtes là pour nous poser une question.
Ouais, j'ai une Prius 4 là qui roule au bioéthanol avec biomoteur. Et je voulais savoir si je peux mettre de l'additif pour que, comme je roule pas beaucoup l'hiver, de l'additif. Moi j'avais lu EMAC additif de 2000. C'est ce que je mets dans les tronçonneuses, dans la tondeuse, en fait, voilà.
Bah alors pour les tronçonneuses, on va demander à François Alain parce que lui il a un petit hobby le soir, c'est qu'il va découper des gens avec sa tronçonneuse. Donc mais par contre il le fait pas l'hiver parce que l'hiver ça lui il fait trop froid. Et vous comprenez le sang gèle dans la.
Jean-Luc, la lame de la tronçonneuse. Cette émission.
Un peu de sérieux, Jean-Luc, s'il vous plaît.
Ouais, non. Alors, ce que je vais vous dire, Dominique, c'est là, je suis très sérieux. C'est que au moment où vous allez entre guillemets hiverner votre Prius 4, vous mettez pas de l'éthanol dedans parce que l'éthanol ça vieillit super mal. Donc, si vous devez laisser la voiture, pourquoi ça vieillit mal? Surtout parce que l'éthanol ça a une grosse affinité avec l'eau. Ça absorbe bien l'eau. L'essence se mélange pas à l'eau, alors que l'alcool se mélange très bien à l'eau. Vous buvez un Ricard de temps en temps, ça se mélange bien. C'est exactement ça. Donc, si vous laissez votre voiture remiser pendant longtemps sans rouler, l'éthanol va se charger en humidité, et l'humidité dans le carburant, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour se rendre compte que ce n'est pas une bonne idée. Donc, il va se dégrader, le carburant va se dégrader rapidement. Donc, avant l'hiver, vous faites un plein avec du super sans-plomb 98. Pourquoi je vous dis 98? Parce que le 98 n'a pas d'éthanol dedans. Enfin, il a de l'éthanol, mais sous forme d'ETBE. On ne va pas rentrer dans la chimie, mais au moins, lui, il n'absorbe pas l'humidité. Donc, vous faites un plein réservoir complet avec du super sans-plomb 98 et vous passerez l'hiver sans trop de problèmes. Maintenant, si vous voulez laisser plus longtemps encore, et là, je le dis, puisqu'on parlait de voitures anciennes à l'instant avec François Alain, pour ceux qui ont des voitures anciennes et qui vont les hiverner, parce que là, pour le coup, l'hiver, c'est vrai, quand il fait froid, quand il pleut, quand il y a de la neige, on n'a pas trop envie de sortir ces anciennes. Là, il y a des stabilisateurs de carburant qui existent. Il est conseillé de mettre un stabilisateur, ça permet de conserver le carburant plus longtemps. par exemple, du super samplon 98, qui va avoir une durée de vie, on va dire, elle est un petit peu moins d'un an sans stabilisateur, on va pouvoir l'emmener jusqu'à 2 ans. Et dans le cas contraire, sinon, vous allez avoir... Alors, ça évite à la fois l'oxydation, la formation de ce qu'on appelle les gommes, et puis il y a des dépôts qui seront dans les carburateurs, les injecteurs. Et si vous ne faites pas ça, quand vous allez remettre en route votre voiture, elle a toutes les chances de tomber en panne. Un carburateur qui est bloqué par des gommes, c'est juste catastrophique, puisqu'on n'arrive pas à les enlever après. Donc souvent, il faut tout démonter, voire même remplacer. Donc il est conseillé de faire ça. Donc vous mettez un stabilisateur dans le carburant, vous faites tourner la voiture pour que le stabilisateur, évidemment, soit dans tout le circuit de carburant. Et ensuite, vous pouvez hiverner votre voiture, la laisser un petit moment sans rouler. Ça a même un rôle antibactérien, ces stabilisateurs de carburant. C'est ce que vous devez mettre d'ailleurs dans votre tondeuse et votre tronçonneuse. C'est un stabilisateur de carburant.
Je mets un stabilisateur, mais je roule. Enfin, je mettais jusqu'à maintenant du FEP95 E10.
Non. Il faut pas. Si ça reste longtemps sans rouler, pas de carburant avec de l'éthanol. Donc le 95 E10, il a 10% d'éthanol, donc c'est pas bon. Même le 95 normal, il a 7,5% d'éthanol, donc c'est pas bon. Si ça reste longtemps sans tourner, du 98, point. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup pour le renseignement.
Et ben je vous en prie, Dominique.
Merci beaucoup. À très bientôt et bonne année, tiens, puisque
bonne année.
Ça y est, on est début janvier. Jean-Luc, il est temps de retrouver maintenant notre meilleur avocat. C'est Maître Rémi Jossomme, il est avec nous au téléphone. Bonjour, Maître.
Bonjour François, bonjour Jean-Luc, je vous souhaite également une très bonne année 2021, plein de bonnes choses, mais ce sera peut-être pas du côté des nouvelles mesures qu'il faudra chercher.
Maître, bonne année.
Voilà, Rémi, vous passez dans un tunnel, ça coupe, je pense qu'on n'aura pas l'occasion de vous revoir en ligne. Bon, non, alors c'est vrai Rémi, on va faire un petit point sur ce qui nous attend. On a commencé déjà tout à l'heure avec Céline Kastner. Il y avait quand même une ou deux nouvelles pas trop mauvaises, mais là sur le front de la réglementation, c'est pas terrible. Déjà, on était dans du tout radar, on se disait on pourra pas faire plus. Eh bien si.
Ah oui.
2021 s'annonce, j'allais dire sous les meilleurs auspices, mais là je vois François qui me regarde en disant j'ai pas envie d'y aller, l'auspice.
Jean-Luc, on annonce quasiment 700 radars complémentaires avec, vous savez, cette nouvelle technologie dont on a déjà parlé qui s'appelle les radars tourelles, c'est-à-dire ces radars qui vont être installés, bien sûr, sur les routes nationales, départementales, mais aussi en ville, les mini-tourelles, et qui vont, outre la vitesse, vont pouvoir constater d'autres infractions, comme le téléphone, la ceinture, par exemple. On en annonce 4700 en tout en 2021. Ce sera le parc radar de la France d'ici là, dont 500 radars tourelles qui vont être installés donc courant 2021.
D'accord. Alors le radar tourelle, vous nous dites, ça peut verbaliser la ceinture de sécurité, le téléphone portable. Comment il fait le radar ? Il fait une photo de face, de dos, de profil, de dessous, de dessus ? Il rentre dans la voiture ?
Alors, il rentre pas encore dans la voiture, mais ça ne saurait tarder. Non, plus sérieusement, il va prendre effectivement une photographie. Alors, ça sera toujours le même discours, c'est-à-dire qu'en fait...
Ah oui, parce qu'on peut très bien avoir quelque chose à l'oreille qui n'est pas un téléphone portable.
Voilà, ça peut être ça. Et puis surtout, c'est que la photographie, elle va avoir beaucoup de difficultés à vous identifier, vous, monsieur Moreau, comme conducteur. Elle va principalement identifier un véhicule, surtout, et un comportement. De là à prouver l'identité du conducteur, c'est une autre question qui, évidemment, n'a pas de réponse pour le moment.
Voilà. Bon, alors, autre bonne nouvelle, les radars embarqués dans des voitures vont pouvoir être de plus en plus conduits par des personnes qui ne seront pas des agents de la force publique, donc ça va permettre de les multiplier.
Oui, exactement. On devrait arriver normalement à 223 véhicules privatisés, on va dire. Comme vous le dites, ce sont des véhicules conduits par des agents privés sur délégation d'une compétence de l'administration. Donc ces véhicules vont simplement sillonner les routes françaises et collecter les infractions à la vitesse, le tout envoyé au centre automatisé de Rennes. Et c'est là, et seulement là, qu'un agent habilité pourra éditer le PV et vous l'envoyer. C'est une vraie mesure particulièrement radicale, parce que là, c'est un véhicule totalement banalisé dans le flot de circulation, donc très difficile à détecter, j'allais dire. Et c'est effectivement la volonté de l'administration, hein, c'est de faire en sorte qu'on puisse être contrôlé à tout instant, à tout moment, sans pouvoir utiliser les applications qui vous permettent, pour les points de contrôle fixes ou de police ou de gendarmerie, eh bien d'être signalé par les utilisateurs.
Oui, alors ce qu'on va préciser quand même sur ces radars qui sont mobiles, c'est que, alors c'est pas une tolérance, hein, on va dire la marge d'erreur est plus importante.
Et c'est ça, elle est beaucoup plus importante. Hein. C'est le double du radar fixe. C'est 10 km/h quand la vitesse constatée est inférieure à 100 km/h et 10% quand la vitesse constatée est supérieure à 100 km/h.
D'accord, donc François qui roule habituellement à 200 km/h, lui, à 10%, finalement, il est vachement, bah, il est vachement gagnant. Ouais. Hein, il est gagnant au final.
Il a 20 km/h de marge. Parce que
oui, ça va.
La fraction sera la même.
Voilà. D'accord. Ouais. Bon, alors, on continue les joyeusetés. On va. J'adore celle-là. On va avoir Paris à 30 km/h, peut-être cette année.
Ouais, vraisemblablement, c'est une décision qui mûrit dans l'esprit des élus de la mairie de Paris. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà, hein, des zones à 30 km/h. Alors, faut être honnête, quand on est piéton, c'est super agréable, hein, quand on se promène, voilà, il y a une forme de liberté.
Et Rémi, moi, j'ai fait un petit calcul il y a pas longtemps. Quand on est piéton, ça va pas être très agréable parce qu'on va multiplier la pollution par 3, pratiquement, des véhicules qui vont circuler. Donc, on va augmenter le nombre de morts liées à la pollution, qui est déjà assez important en région parisienne. Je crois que c'est 6600 par an. Donc on va augmenter le nombre de morts, on va plus augmenter le nombre de morts par la pollution avec des véhicules qui roulent moins vite qu'on va, on va économiser. Voilà, exactement. Donc franchement, c'est extrêmement contre-productif, on va dire que c'est purement politique quoi, comme décision.
Oui, oui, bah c'est la lignée de la politique anti-voiture. Hein. Si déjà vous n'arrivez pas à accéder à la capitale et quand vous y arrivez, on vous dit que c'est très cher pour stationner et que pour arriver à stationner, vous ne pouvez rouler qu'à 30 km/h, c'est vrai que.
Ah, puis on va faire payer les motos aussi, tiens, puisqu'on parlait de stationnement.
Bah oui,
parce qu'il n'y a pas qu'à Paris d'ailleurs.
Bah oui, Jean-Luc, les usagers sont pas complètement débiles. C'est-à-dire que quand ils comprennent qu'ils ont du mal à accéder à la ville, bah, ils utilisent d'autres modes de transport, dont le deux-roues motorisé. C'est-à-dire qu'en fait, on a moins de voitures peut-être, mais on a plus de moteurs qui circulent dans la capitale puisqu'on a plus de deux-roues. Et ça, c'est incontestable. Donc, effectivement, jusqu'à maintenant, les deux-roues, parce que il y a un emplacement qui est réservé parfois aux deux-roues, et donc on a un respect de cette réglementation. Là, bah parce que les usagers sont de plus en plus nombreux, on va vraisemblablement mettre en place le stationnement payant pour les deux roues, qui jusqu'à maintenant était exonéré de cette taxe. Là, ça va être une vraie révolution si la mairie y arrive, parce que il y a vraiment, ça grogne beaucoup, et on sait que les usagers de roues savent se mobiliser.
Ouais, ouais. Alors, puisqu'on parle des maires, là, justement, il était prévu, on a entendu parler, je crois que c'est au mois de novembre, d'une possibilité pour les maires d'installer des radars dans leur commune sans attendre une autorisation préfectorale. C'est un truc qui, réglementairement, peut se faire ou pas, ça?
Oui, alors oui, parce que la loi sécurité qui est en cours de réécriture pour certains articles a prévu cette possibilité-là d'une décentralisation de la compétence et laisser donc, comme vous le dites, les maires la possibilité d'installer des radars sur leur commune. Restera à trancher des problématiques, à mon avis, de financement, de clientélisme. Sur le principe, on en a déjà discuté, j'y suis pas complètement opposé parce que je pense que le maire sait où c'est dangereux.
Ouais, ouais.
Voilà, bon, c'est toujours la même chose. Hein. Vous savez, le riverain, il est contre les radars quand il part en vacances, mais il aime bien qu'il y ait un radar devant chez lui parce que les voitures roulent moins vite devant chez lui. C'est toujours le même quiproquo là-dessus. Hein.
Les 90 km/h, de plus en plus de départements ont l'intention de revenir aux 90 km/h. À chaque fois, quand j'entends le sujet qui est évoqué sur les grands médias, on nous dit oui, mais alors les élus pourraient être accusés s'il y a de nouveau une augmentation de la mortalité sur les routes. C'est du bidon, on est d'accord, Rémi?
Bien sûr, c'est du bidon. Et justement, c'est parce que on a communiqué là-dessus en expliquant que les maires ne pouvaient pas avoir leur responsabilité engagée dans le cadre de l'exercice de leurs prérogatives. Enfin, c'est complètement ridicule. Donc oui, de plus en plus de départements ont franchi le pas. Et on le voit aujourd'hui, bah, les chiffres, bien évidemment, ne sont pas
aussi catastrophiques que ce qu'on nous avait dit.
Mais, mais absolument pas. Ouais. Donc là aussi, si on décentralise et on laisse aux maires la possibilité d'installer des radars, bah, qu'on laisse donc, et c'est normal,
les départements
modifier leur réglementation, parce que eux, et mieux que quiconque, connaissent précisément les routes les plus dangereuses. Et voilà, un passage aux 90 km/h n'est pas nécessairement un passage sur tout le département. Donc laissons encore une fois les élus qui connaissent le terrain
réduire
la vitesse. Oui.
Alors, dernier point, alors là, on est un petit peu en dehors de l'automobile, mais c'est assez surprenant, il va falloir une identification sur les vélos.
Oui, alors les vélos vont faire l'objet d'un marquage, effectivement, à partir du 1er janvier, donc là, depuis quelques jours, c'est en cours. Alors, c'est dans le cadre des véhicules nouvellement acquis, hein, pas entre particuliers, bien évidemment. Alors, bah, le marquage, il part du principe que ça doit permettre donc l'identification du vélo et donc notamment pour lutter contre le vol principalement. Mais les mauvais esprits pourraient se dire est-ce qu'on pourrait pas à terme verbaliser des cyclistes, enfin en tout cas les vélos mal garés, puisqu'on pourra les identifier. Vous voyez, je n'ai que de mauvaises idées et je fais que du mauvais esprit, mais finalement
souvent ça se vérifie, c'est ça qui est dommage.
L'histoire me donne parfois raison.
Ah, c'est terrible. Il n'y a pas une bonne nouvelle quand même.
On en a déjà un petit peu parlé ici, le retour aux 90
km/h,
c'est plutôt mal. Sinon, effectivement, je cherche, mais je me gratte la tête et je ne vois pas grand-chose d'autre.
Le permis ne va pas passer à 16 points l'année prochaine, non ? C'est pas dans les cartons pour 2021, malheureusement.
Pas du tout, non. Et je crois que c'est pas du tout dans les cartons et dans l'idée de ceux qui nous gouvernent pour le moment.
Bon, terrible.
Merci, maître.
Merci messieurs, je vous salue avec un peu d'émotion, bien naturellement. J'ai été ravi de travailler avec vous pendant 6 ans, je crois.
Mais est-ce que c'était du travail en plus, maître ? Même pas.
C'est du pur plaisir.
Le seul point positif que j'en tire à l'avenir, c'est que je vais pouvoir
ne plus fréquenter
dormir
Jean-Luc.
Un peu plus le dimanche. Voilà. Non, mais Jean-Luc, je le verrai très régulièrement comme c'est déjà
le cas. C'est un bon client,
Il m'amène ses lettres vertes.
Donc, lui aussi. Ah là 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 là. Bon, en tout cas, maître, ça a été un vrai plaisir. Merci pour votre expertise et pour tous ces auditeurs dont vous avez pu aider depuis toutes ces années.
Merci de m'avoir laissé la parole et la libre parole, parce que je le dis de manière tout à fait spontanée, j'ai eu la liberté d'expression qui était celle que j'essaye d'avoir dans mon métier, et je l'ai eu à la radio avec vous de manière totalement absolue. Donc je vous en remercie aussi.
Allez, dans un instant,
merci
la météo. Merci beaucoup.
À bientôt, messieurs, salut.
Et on revient dans un instant, on repart avec vos questions auto 32-16 bien sûr, et plein de surprises qui arrivent. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h,
votre auto.
François Sorel,
Jean-Luc Moreau.
Nous voilà de retour, le week-end des experts, l'automobile, et on va retrouver tout de suite Laurence qui nous attend, Jean-Luc au 32-16. Bonjour Laurence.
Bonjour monsieur.
Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour François et bonjour François Laurence. Pas bonjour monsieur.
Oui, parce que vous avez deux
messieurs. Bonjour Jean-Luc. Bonjour François.
Et il y a même François Alain qui est avec nous. Donc François deux en fait.
Mais j'arrive pas à partir.
Il y a du monde aujourd'hui.
Ah oui, il y a du monde.
Mais d'abord, je voudrais vous dire merci pour votre émission qui est vraiment très agréable et qui nous renseigne beaucoup.
Eh ben c'est gentil. Vous nous appelez d'où, Laurence ?
De la Corse.
De la Corse, très bien.
Ah bah tiens, ça va intéresser François au plus haut chef.
Ah bah attendez, non, mais vous êtes où ? En Corse ?
En Haute-Corse.
En Haute-Corse, d'accord. Et on vous écoute, Laurence, allez-y. Quelle est votre question ?
Moi, je vous appelle pour un petit problème que j'ai eu avec une Dacia Stepway boîte automatique.
D'accord, oui.
J'ai acheté ce véhicule en novembre 2016, fin 2017, elle commence à avoir des petits problèmes, c'est-à-dire qu'elle me fait des à-coups. Et pour passer les vitesses, déjà pour demander la marche arrière ou la marche avant, elle ne me répond pas. Elle ne fait pas l'action. Donc j'en fais part à mon garagiste qui me dit c'est parce qu'il fait froid.
C'est ça.
Vous inquiétez pas.
Ouais. Faut lui envoyer un recommandé.
Comment ?
Faut lui envoyer un recommandé. Vous lui envoyez un recommandé.
Bah, là,
vous
sur le coup, je n'ai pas fait. Arrière. Ouais, j'ai fait confiance au garagiste. J'ai rien dit. Problème, c'est qu'en 2018, novembre 2018, août 2018, je crois que c'est. C'est le problème, ça s'amplifie, je ne peux plus passer les vitesses, je ne peux plus rien lui demander, les à-coups sont importants. Et là, je fais appel au garagiste qui, lui, vient me récupérer le véhicule, voit avec Renault, qui me dit c'est un problème d'embrayage. Donc, on dépose l'embrayage, on répare tout, aux frais de Renault. Donc là, bon, ils me disent ça doit marcher, vous n'aurez plus de problème. Ben non. C'est pas le cas. En novembre 2019, l'opération recommence. J'ai les mêmes problèmes.
Laurence, ils vous ont changé l'actionneur d'embrayage parce qu'en fait, votre boîte, elle s'appelle Easy Air. C'est une boîte qui était. Boîte robotisée simple embrayage.
Oui.
C'est un peu basique parce que Dacia n'avait pas envisagé de reprendre la boîte EDC Renault à double embrayage parce qu'elle est très chère. Enfin, elle est très chère, elle vaut 1 200 euros, alors que là, celle que vous avez, elle est moitié moins chère. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis ça sur cette voiture. En termes d'agrément, c'est pas extraordinaire. En termes de fiabilité, ça l'était pas non plus. Et il y a eu des problèmes d'actionneur d'embrayage. Donc, si vous voulez, en gros, c'est un robot qui passe les vitesses à votre place. Et ce robot, il a attrapé froid. Donc, il marche pas bien.
Oui, il marche pas bien. Donc, le problème, c'est que j'accorde. Qu'il y ait des problèmes, j'accorde. Le truc, c'est qu'on vous laisse avec un véhicule qui ne fonctionne jamais.
Ouais, mais quand ils vous ont changé, vous me dites, ils m'ont changé l'embrayage. Qu'est-ce qu'ils ont changé ?
Deux fois.
Ouais, non, mais.
Deux fois. Et là, cette année, je me retrouve encore avec le même problème. Et ils me disent, on vous change encore l'embrayage. Je dis, ça va faire trois fois que vous me changez l'embrayage.
Mais c'est l'actionneur d'embrayage qui vous change ou l'embrayage complet ?
Il me dépose et repose volant moteur, disque d'embrayage, ensemble boîte de vitesse, butée embrayage et volant moteur.
D'accord.
Trois fois, ils veulent. Deux fois, ils me l'ont fait. La troisième fois, j'ai refusé parce que j'ai dit non.
Attendez, ils vous déposent ça, mais ils changent quoi ? La pièce qui change, c'est quoi ? Vous avez le nom de la pièce qui change ?
Embrayage et volant moteur.
Ah, ils vous changent à chaque fois l'embrayage et le volant moteur ?
Oui. Deux fois, ils me l'ont fait, pris en charge par eux. Là, en 2020, il y a trois semaines, ils recommencent à me dire « on vous refait la même chose ». Mais quand j'envoie une lettre recommandée à Paris en leur demandant « mais attendez, on va faire ça pendant combien d'années ?» Et qui paye à chaque fois ? Parce que là...
Pour l'instant, c'est eux qui payent, donc ça va. Mais le jour où ils vont arrêter
cette année,
de payer...
Ils m'accordaient 95% pour eux et 5% pour moi.
Oui, et au fil du temps, c'est clair que ça va diminuer. Et puis à un moment, ils vous diront, non, maintenant, votre voiture, quand elle va avoir passé 5 ans, ils vous laisseront tomber, ils vous rembourseront plus rien.
Elle a 4 ans déjà.
Oui, mais c'est pour ça.
Mais le problème, c'est que quand je pose la question à Paris, en disant, mais on fait quoi si c'est là vous réparez ? Ok, mais je fais quoi, moi, si l'année prochaine, ça revient ?
Alors,
personne ne me répond.
Je ne sais pas si c'est possible sur ce modèle Easy Air, mais il y a eu des précédents chez Renault de boîtes robotisées qui marchaient tellement mal que finalement on a supprimé le robot qui passait les vitesses pour remettre une pédale d'embrayage. La solution dans votre cas, puisque à chaque fois, s'il vous change tout et que ça retombe en panne, on va dire que c'est carrément un souci sur le système lui-même, dans la conception du système, c'est de demander... Est-ce qu'ils ne peuvent pas vous mettre la voiture en embrayage mécanique ? Et puis voilà, la solution, ça va être ça, parce qu'on n'en sortira jamais de votre truc.
Mais comment c'est possible ça ? Ils peuvent changer et passer en embrayage mécanique ?
Oui. En fait, la boîte de vitesse, c'est la même, l'embrayage, c'est le même. C'est juste, vous avez un dispositif d'actionneur qui va faire le travail que vous faites habituellement avec votre pied. Voilà. Donc, normalement, on doit pouvoir faire ça. En plus, c'est étudié en montage sur la voiture. On ne va pas faire des pièces spéciales pour... mettre le système robotisé par rapport au système mécanique. Donc, les deux peuvent être, entre guillemets, interchangeables. Vous allez me dire, mais il manque une pédale. Il faudra effectivement rajouter une pédale. Mais le tablier de la voiture doit être prévu pour rajouter cette pédale en question. Il n'y a pas un tablier qui est spécifique pour les modèles Easy.
Très bien. Laurence, bon courage. Demandez cette possibilité.
Oui, puis pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez prendre une Dacia avec boîte automatique, pas avec cette boîte-là, voilà.
tout simplement.
C'est voilà. Juste pas fiable.
Laurence nous appelait de Haute-Corse. Vous pouvez aussi nous joindre 3216, l'appli RMC. Direct Studio, Jean-Luc Moreau. Vous vouliez continuer vos échanges avec le monsieur François Alain qui est là, visiblement.
Ben oui, parce qu'on a plein de trucs. D'abord, on a plein de trucs à se dire, c'est sympa.
Ouais, et mais là, vous ne débarrasserez pas de moi comme ça. Vous mais allez non, fermer le studio, vous allez éteindre les lumières, je serai encore collé.
On a essayé de le pousser dehors, il a dit « Ouais, mais on n'a pas parlé de la 4L ». Mais c'est vrai, on n'a pas parlé de la 4L. C'est quand même un monument de l'automobile française qui va fêter le même... Vous avez le même âge, en fait, François.
Merci, ouais, je remercie beaucoup.
Quelle année, 4L ?
La 4L, elle est sortie en juillet 61, donc j'étais déjà au baccalauréat à cette époque-là.
Bien sûr. Oui, bah oui.
61, d'accord.
Ouais, ouais, ouais.
Elle va fêter ses 60 ans, la 4L.
C'est,
marrant parce que, bon, alors on voit que c'est une voiture ancienne, ouais. Mais elle est pas si marquée que ça, en fait, la 4L.
Alors,
elle avait déjà un look moderne.
Elle avait déjà un look moderne, c'est ça qui a fait la différence avec la 2-2, parce qu'en fait, Renault a attendu de voir le succès de la 2-chevaux et les bonnes idées de la 2-chevaux pour faire sa 2-chevaux à eux, quoi, entre guillemets. On oublie d'ailleurs qu'il y a eu la R3 aussi, parce que la 4L est sortie, mais il y avait la R3 et la R4 qui sont sorties au même moment. La R3 étant la version low cost entre guillemets de la R4, la R3 a complètement disparu. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu une vraie voiture de collection parce que introuvable. Mais ces deux voitures qui avaient exactement la même carrosserie, la même coque, qui sont sorties en même temps, et la R4, elle a vécu une histoire extraordinaire parce que c'est comme la 2-2. C'est une voiture qui a marqué l'histoire de France.
Ben à l'époque, moi, quand j'étais jeune, quand on venait de passer son permis, on avait soit une 2-chevaux, soit une 4L. En gros, c'était l'un ou l'autre.
Voilà. Et donc, il n'y a pas que la scène des visiteurs.
Moi, c'était R5 ou 205.
Ouais,
moi,
c'est un petit
pas
peu
le même âge.
Ben voilà.
Moi, c'était deux Dion Bouton ou. Bon, bref. Et donc, c'est vrai que cette voiture, elle est importante parce que elle est restée dans le souvenir populaire. C'est une voiture qui a vraiment marqué toutes ces époques, comme la Dodge, hein, qui a eu un succès encore plus important.
Ouais, mais ce qui est très étonnant, tiens, justement, c'est quand on se penche aujourd'hui sur la cote d'une 2-chevaux ou d'une 4L,
oui.
Une belle 2-chevaux, ça vaut plus de 10 000 euros.
Ah oui.
Alors qu'une 4L, c'est moitié, voire trois fois moins.
Oui. Alors le seul truc, c'est qu'effectivement, la 2-chevaux, par ses formes et par son histoire encore plus longue et encore plus mouvementée, a gardé un succès et une cote plus importante que la 4L. Mais la 4L, c'est aujourd'hui une voiture de collection, évidemment, qui intéresse pas mal de gens, et notamment des jeunes, parce qu'elle a le même phénomène que la 2-chevaux. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des voitures intergénérationnelles à l'époque et intergénérationnel aujourd'hui en collection. Et puis il y a le 4L Trophy, par exemple, qui est un événement qui maintient aussi...
Oui, mais qui bousille pas mal de 4L chaque année.
Oui, qui bousille pas mal de 4L chaque année. Mais la 4L va finir, comme la 2-chevaux, par avoir des refabrications. Il y a déjà un spécialiste de la question. Alors pour la 2-chevaux, il y en a plusieurs. Mais c'est des voitures sur lesquelles on peut facilement tout refaire. C'est des panneaux.
Oui, puis c'est de la mécanique simple, on peut le faire soi-même.
Donc c'est l'avenir, ces voitures-là peuvent perdurer encore très très longtemps. Et puis comme la 2-chevaux, c'est vrai que tout le côté les films de cinéma, les feuilletons ont fait beaucoup. Tout le monde se souvient évidemment des différents films dans lesquels on voit des 4L, notamment la fameuse scène dans Les Visiteurs avec Isaac de Bancolet et qui est le pauvre postier de
oui,
la
ça
poste.
Ça fait une 4L en moins d'ailleurs.
4L en moins, mais voilà, c'est génial. Voilà, c'est des trucs comme ça qui restent exactement comme la 2-chevaux du Cornio. C'est des moments de cinéma qui marque aussi à la fois une époque et qui ancre le modèle dans l'histoire. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en 61, quand sort la 4L, quelques mois plus tôt, Citroën a présenté l'Ami 6. L'Ami 6 qui reste dans la tête des gens comme la voiture des Dupont dans lequel ils se cognent etc.
L'Ami 6, pour ceux qui sont pas des spécialistes, c'est cette Citroën avec la vitre arrière dans l'autre sens, quoi,
voilà,
avec un dessin qui est, on va dire, quand même très particulier.
Très particulier. En fait, c'était une voiture de mamie. Mais d'ailleurs, tante Yvonne, la femme de Charles de Gaulle, a eu pendant très longtemps une Ami 6. Mais cette espèce de côté désuet et décalé fait qu'aujourd'hui, elle retrouve, et tant mieux, c'est super, elle retrouve une vraie passion en collection parce qu'elle a un look incroyable, cette Ami 6.
On n'en voit plus parce qu'elles sont toutes parties à la benne. Les gens la trouvaient moche, donc ils ne l'achetaient pas.
Voilà.
Donc quand il y a eu les baladurettes, les jupettes,
elles sont parties
à la benne.
Et c'est une voiture qui a marqué vraiment l'époque.
Et la 4L, c'est une voiture qui vieillit bien aujourd'hui. Il y en a encore beaucoup en bon état. Et ça a de la valeur, une belle 4L en bon état ou pas ?
C'est pas une valeur énorme, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle a été fabriquée jusque dans les années 90, donc elle a une
jusque
histoire.
Jusque dans les années 90.
Oui. C'est pour des histoires de normes.
En France, si.
Si, mais même la deux chevaux a été fabriquée pendant longtemps.
Jusqu'en 90, la deux chevaux et la 4L un peu plus tard, mais c'est des voitures qui sont restées très longtemps, et la 4L a rendu les armes pour des raisons de normes, parce que le renforcement des normes, l'arrivée des normes Euro 3, Euro 4, machin, tout ça, ça évidemment, c'était trop compliqué. À la base, le moteur de la 4L était quand même un vieux moteur, et donc c'était compliqué de l'adapter, puis les normes de sécurité n'était pas évidemment au goût du jour, donc c'était plus simple d'arrêter le modèle.
Une belle 4L, alors il y a des modèles un petit peu plus rares que d'autres. Si vous prenez une parisienne, je pense que
oui,
alors,
génial.
On ne se souvient pas, le nom ne correspond pas tout à fait à la voiture, parce que la parisienne avait comme un canage de chaises, vous savez, sur les portes.
Oui, ouais, c'était voilà. Magnifique.
Alors quand on dit magnifique. Ça, voilà, ouais. Quand on se dit ah oui, c'est vrai, il y a eu plein de versions de la 4L qui étaient sympathiques.
Avec
comme ça.
Sheila qui a fait la pub pour cette voiture.
Voilà, et Sheila, tiens.
Voilà.
Mon Dieu.
Mais oui, l'école est finie.
Une 4L parisienne en bon état, ça vaut 6-8 000 euros.
D'accord.
Mais c'est moins cher qu'une deux chevaux Charleston, qui elle va grimper à 14 000 si elle est en train de donner.
J'imagine aussi qu'il y a eu beaucoup d'évolutions entre la première 4L des années 60 et celle de 90.
Et toute première avait trois vitesses. Je me souviens de ça.
Absolument. Non, c'est une voiture qui évidemment a évolué au fil du temps. Alors quand elle finit sa carrière en 90. C'est une voiture préhistorique, hein, comme la Dodge. Quand la Dodge finit en 90 aussi, c'est une voiture.
Il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont vécu 30 ans, comme ça, 30, 40 ans.
Non, il n'y a pas tant que ça. Alors, il y a les grands. En fait, c'est souvent des voitures populaires. Il y a la Mini, c'est simple, Il y a la Mini en Grande-Bretagne, il y a la Coccinelle en Allemagne, il y a la Fiat 500 en Italie. C'est des voitures qui ont été des voitures populaires. Accessibles et qui ont été ensuite qui sont conserfourgués en occasion.
Il y en a
qui ont
une longévité encore plus grande. Oui. Si vous allez chercher chez certains petits constructeurs anglais.
Morgan,
notamment. C'est une évolution d'un modèle quand même qui est d'avant-guerre.
C'est confidentiel. Mais
c'est vrai que c'est confidentiel.
C'est fabriqué à la main. On parle de voitures de grande série. Tiens, il y a un truc rigolo avec la 4L, c'est qu'on a eu beaucoup de 4L de gendarmerie. Alors, police, oui, je crois, peut-être quelques-unes. La deux chevaux, on n'a jamais vu. Est-ce qu'ils avaient honte ou est-ce que c'était pas assez rapide?
Il y a eu le secours routier la police qui a eu la deux chevaux, effectivement.
Il faut dire que quand ils faisaient la course avec les bandits, ils étaient souvent perdants, non?
C'était compliqué.
En deux chevaux,
C'était compliqué.
À l'époque, quand ils avaient les Citroën HY, quand ils faisaient la course avec n'importe quoi, ils étaient sûrs de ne pas les rattraper.
Mais Jean-Luc a bien connu la 4L de gendarmerie. Il est souvent à l'arrière avec les menottes.
Alors, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, François, parce que j'ai une photo de vous entre deux gendarmes, deux policiers, dans un fourgon.
Mais là, c'était pour rire, c'était pour l'émission.
Messieurs, on revient dans un instant et on va accueillir Nicolas, notre infirmier libéral de ce dimanche, forcément. Écoutez, je pense qu'on a commencé avec eux et on va terminer avec eux. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Et puis François Dain nous fait toujours l'amitié d'être là. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h. Votre auto. François Sorel. Jean-Luc Moreau.
Le retour de ce week-end des experts. Bonne année encore à vous tous et à vous tous pour bien sûr ce premier week-end des experts de l'année et le dernier aussi, puisque dans un petit peu plus d'une heure, ce sera la fin de ce week-end des experts. Je vous rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, sur RMC le samedi et dimanche, à cette même place, vous retrouverez une matinale commune, RMC et BFM TV. Voilà. On souhaite bonne chance évidemment à toute l'équipe de BFM TV d'RMC qui vont s'atteler à ce nouveau chantier. Jean-Luc, Nicolas est avec nous au 32-16. Bonjour Nicolas.
Bonjour François.
Bonjour
Jean-Luc.
Bonjour Nicolas.
Notre infirmier libéral de ce dimanche.
Eh oui, il en faut bien.
Oui, bien sûr. Vous nous appelez d'où?
Alors je vous appelle du Lot, charmant petit département où on est très tranquille. Tout va bien.
Ah, ça c'est bien.
Ouais.
Et on vous écoute, Nicolas.
Alors, je me suis rappelé qu'il y a 3 ans, j'avais eu vos conseils par rapport à l'acquisition d'un CHR hybride 122 chevaux.
D'accord.
Donc c'était un modèle qui m'intéressait. Vous m'avez convaincu de l'acheter et je vous en remercie.
Je pensais que vous vouliez que François vous rembourse justement.
Ah oui. Il est en vente là. Ouais. Donc pourquoi pas. Le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, je l'ai mis en vente parce que effectivement je roule beaucoup dans le cadre de mon activité. Donc à l'époque je vous avais appelé pour avoir des conseils sur la mise d'un boîtier éthanol sur ce modèle là. Ouais. Donc, suite à vos conseils, je l'ai fait. Donc tout s'est très bien passé. Là, je suis à plus de 150 000 en deux ans et demi, trois ans. Donc,
ah oui, vous roulez bien alors. Vous roulez beaucoup. Ouais.
Puis sur des routes rurales, donc ça s'avérait judicieux comme choix justement au niveau de la pompe. Alors mon souhait actuellement a été de changer de véhicule parce que je le trouvais un peu pas assez péchu à mon goût.
Vous savez qu'il y a une nouvelle version 180 chevaux, hein?
Oui, alors j'ai ma compagne qui l'a acheté.
Ah d'accord, donc, elle voulait pas le même qu'elle alors.
Effectivement, c'est un peu castrateur et réducteur, mais enfin moi je me retrouve avec un 122, elle avec un 124, et je suis un peu dégoûté là, mais bon.
Donc vous voulez une voiture plus puissante que celle que vous avez là, et vous voulez continuer à rouler à l'éthanol. C'est normal quand on s'appelle Nicolas de vouloir rouler à l'alcool, mais bon, enfin bon.
Ah là là, ouais, elle est facile celle-là.
Non,
ouais,
mais ouais. Justement, on peut pas passer
à côté. On peut lui mettre 20, tiens.
Ouais. Écoutez, ça fait deux ans que j'ai pas bu une goutte d'alcool, alors ça va. Quoi.
Ah, ça serait bien. Ah ouais, quand même, il faudrait que Jean-Luc suive l'exemple.
Ça va pas être facile. Alors,
ma question, en fait, mon choix, c'est détaillé sur le Ford Puma,
ouais.
155 chevaux EcoBoost en finition Esteline X.
D'accord.
Donc boîte manuelle. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez par rapport au CHR, effectivement.
Alors, faut faire attention à la finition, pas prendre les finitions sport parce que sinon les suspensions tapent un peu, alors que sur les finitions normales, il n'y a pas de souci. Et surtout, je vais vous demander d'attendre. Vous pouvez attendre encore 3 semaines.
Oui.
Hein ? Parce que je vais vous dire ce que j'ai dit déjà à plusieurs auditeurs. Le 26 janvier, Ford va présenter une nouvelle gamme de modèles Flexifuel, donc qui seront Flexifuel d'origine. Et il y a évidemment un Puma, donc qui sera hybride Flexifuel d'origine. Vous allez pouvoir faire nananananer à votre femme, parce que vous en aurez un d'origine, vous, qui marchera encore mieux. Voilà. Qui marchera. Ah,
super, vous
encore...
m'avez coupé l'herbe sous le pied parce que justement je me posais la question de savoir si j'allais l'équiper en boîtier éthanol.
Ah bah, vous n'avez pas besoin. En plus, il sera au même prix que le modèle essence. Donc vous avez vraiment tout à y gagner. Vous aurez la vraie garantie du constructeur. Et puis surtout, l'adaptation éthanol d'origine est plus performante qu'un boîtier. Pourquoi ? Parce que, le circuit d'alimentation, etc., qui va être complètement différent, les injecteurs sont différents. Donc ils vont pouvoir délivrer plus d'éthanol que les injecteurs d'origine qui, eux, sont forcément limités. Et puis vous allez avoir une cartographie qui va vraiment être étudiée pour l'éthanol, qui va vous permettre de gagner, en particulier les constructeurs. Communique pas du tout là-dessus, mais on gagne des chevaux. Hein. Donc quand vous serez, il sera à 155 chevaux à l'essence, et quand il va passer à l'éthanol, il sera peut-être à 170.
Ah ouais, d'accord. Ouais, effectivement, ça vaut le coup d'attendre.
Ah bah oui, ça vaut le coup d'attendre. Alors là, je vous recommande, soyez patient encore 15 jours, 3 semaines, et puis après, vous pourrez dire à votre femme, je pense qu'elle va jalouser votre Puma, parce que d'abord, il est sympa. Je trouve que l'esthétique est plutôt sympathique. Et puis quand vous ferez la course avec elle, avec son CHR, vous allez la laisser sur place. Donc ça va l'énerver.
Ouais, c'est clair. Il n'y a pas photo. Hein. Voilà. Il n'y a pas photo. Et justement, je rebondis dessus. Elle est intéressée pour mettre un petit flex fuel sur son 184. Moi, effectivement, je le recule sur le 122, où j'ai eu aucun problème. Je voulais savoir si c'était judicieux aussi pour elle en 184. Il n'y avait rien qui avait changé de particulier.
Il y a quelques trucs qui ont changé, évidemment, puisque le moteur il est plus puissant. Mais jusque-là, il n'y a pas l'exemple d'un moteur Toyota, je parle sur les modèles hybrides, qui n'a pas supporté l'adaptation à l'éthanol. Je n'ai pas un seul retour. Pourtant, des retours, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas une personne qui m'a écrit un jour, j'ai mis un boîtier sur un véhicule Toyota et j'ai eu des soucis de fiabilité liés à l'éthanol. Alors que ce n'est pas le cas sur d'autres moteurs. Il y a des moteurs qui n'aiment pas le passage à l'éthanol.
J'étais le client témoin, en fait, à la concession Keor à Toyota, par rapport à mon kilométrage et au fait que j'avais mis un boîtier d'éthanol. Il n'y avait aucun retour, aucun recul. Donc, chaque fois, ils étaient très intéressés, malgré le fait qu'ils freinaient les quatre fers pour pas me dire de mettre de l'éthanol.
Évidemment, ils n'aiment pas. Ils n'aiment toujours pas. Hein. C'est ça qui est paradoxal. C'est qu'il y a des exemples de gens qui ont des centaines de milliers de kilomètres à l'éthanol avec des boîtiers sur des Toyota hybrides. Et malgré ça, Toyota continue à dire oui, mais non, non, non. Vous savez, les Japonais, ils sont très pragmatiques et ils ont besoin de tout valider 15 fois. Et comme l'éthanol, malheureusement, c'est une solution un peu franco-française, au niveau international, ça ne se développe pas, ce qui est très dommage, puisque les véhicules Toyota acceptent parfaitement bien l'éthanol sans problème.
Tout à fait. Je l'ai vu à la revente, je l'ai revendu à un particulier.
Vous avez dû la vendre dans la journée, la voiture. Bah oui.
Ouais, évident. Rapidement. Alors qu'il ne m'offrait pas une offre de reprise à leur concession, du fait que ça roulait à l'éthanol et qu'il ne pouvait pas apparemment le
faire. C'est idiot. Voilà.
Merci Nicolas. Merci beaucoup.
Merci.
Et bon dimanche.
Bon dimanche Nicolas. Au revoir.
Et Marco est avec nous maintenant au 32-16 avant de retrouver les infos de 9h. Bonjour Marco.
Bonjour Marco.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue Marco. On vous écoute.
Bien voilà, je voulais d'abord exprimer le regret que l'émission de Jean-Luc s'arrête, parce que j'étais un fidèle auditeur depuis le début. C'est avec grand regret que RMC, d'une part, supprime tout ce qui est automobile et puis ça devient une chaîne de football. Bon, mais c'est pas ma tasse de thé, mais tant pis, hein, je cherche une autre radio. Alors tout d'abord, mon ultime question pour Jean-Luc. Voilà, je possède une Auris hybride de 1975 et j'utilise jusqu'à présent, comme je suis retraité, je fais très peu de kilomètres, maximum 8000 par an, j'ai un boîtier, chez Biomotor, n'était pas rentable. Donc je mets dans la voiture, lorsque je fais un plein, je fais 60% de 95 et 40% d'éthanol. Je voulais savoir s'il y a un risque pour mon moteur.
Alors, d'abord, le mélange que vous faites, c'est jamais vraiment le même. Pourquoi ? Parce que d'une pompe à l'autre, le E85, déjà en fonction de la saison, vous savez, l'hiver, il est à 65% d'éthanol maximum, et l'été, il est à 85% d'éthanol maximum. Mais le plus souvent, moi, pour avoir... maintenant, j'ai une petite application qui me permet de savoir quel est le pourcentage d'éthanol dans le carburant, on est plus souvent à 70%. Donc, quand vous faites votre mélange, entre l'été et l'hiver, c'est de toute façon pas le même pourcentage. À la limite, vous pouvez garder ce mélange 60%, 40% l'hiver. L'été, mettez un petit peu moins d'éthanol quand même. Parce que il est possible dans certaines stations-service, je vous dis, on peut aller jusqu'à 85%. Ça veut dire que là, vous allez avoir quand même beaucoup d'éthanol et votre voiture risque à un moment de se retrouver en mélange un peu trop pauvre, en particulier dans les accélérations fortes. Alors, vous allez sans doute me dire, oui, mais j'accélère pas très fort. Voilà, je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, qui vont faire le mélange eux-mêmes en faisant un mix. Alors, il y a des moteurs qui l'acceptent pas du tout. Les moteurs Toyota l'acceptent plutôt bien. Moi, je le fais sur ma voiture, ça marche pas mal. Mais par contre, il faut être prudent hein, quand on accélère à fond. Il faut éviter les accélérations à fond pendant longtemps parce que si vous êtes en mélange trop pauvre, ça risque d'abîmer vraiment le moteur. Vous risquez de percer un piston. Enfin voilà, on va pas s'étendre là-dessus, mais ça peut provoquer des problèmes. Donc 60%, c'est bon pour l'hiver parce que à la pompe, vous n'avez pas du E85 mais du E65. Oui. L'été, là où vous risquez d'avoir du E85, faites 50-50, ça suffit largement.
D'accord.
Et normalement, ça doit rouler sans problème. Hein.
Ouais, parce que moi, vous n'avez jamais.
Ouais, oui. Voilà, c'est ça, ce que j'allais vous dire. Si vous êtes gentil avec la pédale d'accélérateur, oui, normalement, vous ne devez pas avoir de problème.
J'ai deux voitures, je fais des co-conduites et puis j'ai une 93 2S avec laquelle j'accélère. Voilà.
Vous avez bien, exactement, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, si y a un moment la voiture détecte qu'il y a un mauvais fonctionnement à cause du carburant, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer, orange qui va s'allumer au tableau de bord. Ce que vous faites à ce moment-là, vous ne paniquez pas, vous remettez.
On remet de l'essence.
Vous remettez de l'essence et ça va s'éteindre.
Ça va s'éteindre.
Le calculateur gardera une trace de l'anomalie, mais l'anomalie va disparaître.
Et au bout de combien de temps ça s'éteint?
Quand vous allez revenir à un pourcentage de carburant qui convient au calculateur, c'est tout.
D'accord, tout simplement.
Et mais si je prends par précaution de mettre que 30 et 70, là, il n'y a pas de problème.
Normalement, il n'y a pas de souci. Vous êtes dans une région où il fait froid?
Je suis en Provence.
Ah bah non, en plus, il ne fait pas froid. Parce que le problème de l'hiver avec l'éthanol, c'est qu'on a des difficultés à démarrer. Quand on n'a pas un boîtier, parce que quand on a un boîtier, il enrichit beaucoup le mélange pour faciliter le démarrage à froid. Quand on n'a pas de boîtier, l'enrichissement n'est pas suffisant. Donc parfois, il faut mettre 3-4 coups de démarreur pour démarrer quand on met de l'éthanol dans une voiture qui n'a pas été prévue pour.
Merci Marco.
Mais il faut vraiment être dans une région qui est froide.
Très bien, mais en Provence, ça va.
En Provence, ça devrait aller.
Ouais. Alors bon, parfois, il fait froid en Provence.
Oui, non, il peut faire froid dans l'arrière-pays.
Il peut être un peu en altitude. Ouais, bien sûr. Puis le Luberon, l'hiver, parfois... Ça cocotte hein, quand même.
Petit patapon.
Luberon, petit patapon.
Oui, exactement.
Très bien. On prend tous une grande respiration pour vous dire que bientôt c'est la météo et les infos de 9h. Jean-Luc, on revient pour notre dernière heure.
Ah mais je voudrais qu'on parle des 100 ans de la Citroën B2, il est encore là, on n'a pas réussi à le virer du studio, alors donc on va en profiter.
Alors on va parler des 100 ans de la Citroën B2, faites-vous plaisir, hein, c'est la dernière, donc allez-y.
Ah, c'est de l'impro total.
Et on recevra Flavien Neuville, le directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile, pour dire que le divorce entre les automobilistes et l'automobile, c'est pas facile.
Il n'est pas consommé, non, il n'est pas consommé, hein. Et puis même à l'avenir, on va voir que les automobilistes ont encore besoin de voitures, d'abord pour rester des automobilistes, puis parce qu'ils aiment ça.
Et bien sûr. On découvrira ce nouveau service, le Airbnb de la borne de recharge. Il s'agit de Watt Park et c'est une start-up française, monsieur. Et oui. Et puis la question pas si bête. En hiver, pour chauffer l'habitacle, faut-il enclencher la climatisation? Voilà. Et puis vos questions. Les dernières, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Météo Info, on est de retour, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h. Votre auto.